Bienvenue tout le monde à notre séance sur le livre d'exercice d'un cours en miracle. Nous allons faire, juste pour vous dire tout de suite, un petit changement dans cette séance. Le deuxième, nous allons bien sûr offrir la première partie de ce cours en public. Donc, il y aura une vidéo de la première partie. Mais le deuxième, nous allons arrêter l'enseignement après la première partie pour laisser les personnes qui sont ici présentes lors de l'émission du temps en privé pour se confier pour que nous puissions discuter seuls sans l'idée d'un enregistrement qui sera diffusé par la suite sur Internet. Donc, pour les personnes qui regardent ceci en replay, cette séance sera un peu plus courte d'une demi-heure à peu près. Merci pour votre compréhension. Et maintenant, commençons notre séance. Nous avons récemment fait la leçon 16 et la leçon 17, qui forment un ensemble et qui parlent de la dualité dans notre esprit. Nous avons appris dans ces leçons que dans la leçon 16, notamment, qu'il y a dans notre esprit une espèce de dualité entre la paix ou la guerre, l'amour ou la peur. Ça nous avait déjà marqué. Maintenant, dans ces deux leçons, 17 et, 18 et 19, nous allons parler non plus de la dualité de notre esprit, de l'unité dans notre esprit et comment notre esprit, en fait, est joint à l'esprit de tout et chacun. Ces deux leçons sont presque identiques et accentuent l'importance de comprendre que derrière les apparences, il y a un esprit seul auquel nous appartenons chacun, et chacun est en train d'influencer cette unité à sa façon. C'est le sujet de cette séance ce soir. Ces leçons vont nous aider à nous préparer pour accepter l'unité comme notre réalité à la place de la séparation de cet esprit particulier. Donc, vont nous aider à donner moins d'importance ou de comprendre différemment cet esprit que nous pensons le nôtre, un esprit individuel et privé et séparé des autres. Très bien. Et voici la leçon 18. Je ne suis pas seul à éprouver les effets de ma vue. C'est une leçon qui est assez courte, mais qui contient deux idées très puissantes dans le premier paragraphe. L'idée elle-même que notre façon de voir les choses est partagée par d'autres personnes. Il ne l'explique pas comment cela fonctionne dans cette leçon. Il explique davantage dans la leçon 19. Donc, je laisserai ça pour la leçon 19. Commençons avec la première idée importante. Nos pensées sont puissantes. Nous lisons ici dans le premier paragraphe. L'idée d'aujourd'hui est une autre étape pour apprendre que les pensées qui engendrent ce que tu vois ne sont jamais neutres ni sans importance. Donc, ne sont jamais neutres, c'était le sujet de leçons précédentes. Cela nous a déjà dérangé un petit peu de savoir que nous pensions peut-être pouvoir avoir un genre de pensée neutre, un genre de zone grise dans notre esprit. Nous avons appris que non, soit nos pensées étaient de la guerre ou de la paix, de la peur ou de l'amour. C'était déjà un petit peu dérangeant. Mais là, il ajoute un certain niveau de complexité ou d'intensité quand notre guide nous dit nos pensées ne sont pas sans importance non plus. Ce qu'il veut dire ici, c'est que nos pensées ont un effet sur d'autres personnes et ne sont pas totalement privées et confinées ou limitées aux limites de notre propre esprit. Il existe un lien entre notre esprit et celui des autres et ce n'était pas attendu. Mais avant d'aller plus loin, il faut signaler, il faut faire remarquer, il faut... Non, non, il faut être vigilant de ne pas ressentir de la culpabilité quand nous apprenons que nos pensées sont ressenties d'une façon ou d'une autre par d'autres personnes. Il ne faut pas ressentir de la culpabilité. Il faut juste que nous soyons conscients, que nous développions un genre de conscience de ce qui est dans notre esprit. Cela va de ce qui est dans notre esprit parce que nous n'affectons pas, nos pensées n'affectent pas que nous. Voilà, restons là pour l'instant, mais on va approfondir toute cette idée ce soir pendant cette séance. On peut avoir l'impression, on peut comprendre qu'il y a de la dualité dans notre esprit. On peut apprendre que oui, il y a de la guerre, oui, il y a du conflit, oui, etc., il y a du jugement. Mais tant que ça reste dans l'intimité de notre esprit, on peut dire, bon, ce n'est pas si grave que ça. Alors maintenant qu'on dit que non, ça n'affecte pas que vous et d'autres personnes peuvent ressentir ce que vous ressentez. Là, ça commence à être un petit peu plus compliqué, encore plus perturbant, si vous voulez, quand nous apprenons que nos pensées dépassent les limites de notre propre esprit. Et quand nous nous souvenons que nos pensées contiennent une charge, ils ne sont pas juste neutres, mais ce sont une charge d'amour et de paix, ou une charge de guerre et de conflits et de peur, alors cela devrait nous interpeller et devrait nous motiver à vouloir être plus vigilants, plus attentifs à la nature et au contenu de nos pensées. Oui, voilà. Nos pensées sont ressenties par d'autres personnes parce que notre esprit est toujours uni. Nous avons encore l'impression, du fait de voir les êtres, les corps séparés, que l'esprit de chaque corps est limité à son corps, limité à sa tête, son cerveau. Néanmoins, le principe de l'unité, puisque l'unité n'a pas été détruite, le principe de l'unité opère toujours à chaque instant. Comme Kenneth Wapnick nous disait, il n'y a qu'un seul esprit. Il n'y a pas 8 milliards de différents esprits. Il disait « All minds are joined » et je ne pouvais pas compter le nombre de fois qu'il nous l'avait dit, qu'il nous l'avait rappelé. Évidemment, parce que c'est une idée vraiment importante, une idée aussi que nous oublions très rapidement. Donc, tous les esprits ne font qu'un, et voici quelques extraits du cours qui nous aident à comprendre cette idée dans le langage du cours. Voici une petite phrase de la leçon 161. Chaque esprit contient tous les esprits, car chaque esprit est un. Un autre extrait de la leçon 100. Le salut doit renverser la folle croyance en des pensées séparées et des corps séparés qui mènent des vies séparées et vont séparément chacun sur son chemin. Et puisque nous sommes sur un chemin de salut, ce qui est juste le mot symbolique du cours pour dire un chemin d'éveil ou un chemin de guérison, nous devons apprendre à renverser, comme selon cette phrase, la folle croyance en des pensées séparées et des corps séparés qui mènent des vies séparées et vont séparément chacun sur son chemin. C'est ce que ces deux leçons vont nous aider précisément à faire. Et malgré la fragmentation, une fragmentation que nous lisons, sur laquelle nous lisons ici dans la première section du chapitre 18, nous lisons encore ce paragraphe ce que Kenneth nous lisait assez souvent sur la nature de cette fragmentation ou cette séparation. Nous lisons ici, dans le quatrième paragraphe, toi qui crois que Dieu est peur, tu n'as fait qu'une substitution ou un changement ou une séparation. Elle a pris de nombreuses formes parce que c'était la substitution de l'illusion à la vérité, de la fragmentation à l'entièreté. Elle s'est tellement fractionnée, subdivisée et redivisée maintes et maintes fois qu'il est maintenant presque impossible de percevoir qu'elle a jadis été une et qu'elle est encore ce qu'elle était. Bien sûr, c'est la deuxième partie qui est le dernier petit bout de phrase qui est le plus important pour nous ici. Cet paragraphe, ces lignes parlent en fait du Big Bang. Voilà. Ce qui était un, même dans l'explosion du Big Bang, du Big Bang s'est divisé, redivisé, redivisé maintes et maintes fois, au point que nous ne reconnaissons plus l'unité que cet univers était à son origine. Malgré les fragmentations, l'unité est toujours vraie, c'est ce que nous lisons encore dans la première section du chapitre 18, ce que Dieu a joint et ce que le Saint-Esprit voit ne faisant qu'un, rien ne peut le séparer. Donc, l'unité est toujours présente malgré ces apparences de fragmentation. Comment est-ce qu'on peut accéder à une vision ou une image de l'unité que nous sommes tout en ayant 8 milliards de différents visages différents? J'ai deux métaphores que j'aime particulièrement. Le premier est assez, bon, les deux sont assez ludiques si vous voulez. Le premier est une boule à facettes. Donc, imaginons une boule à facettes, mais avec 8 milliards de différentes facettes. Maintenant, sur chaque facette est dessiné un visage, le visage d'une personne. Si nous regardons juste cette facette, le visage sur cette facette, nous pouvons avoir l'impression que cette facette, ce visage, est séparé de tout le reste. C'est seulement quand nous élargissons notre perspective un petit peu et nous regardons plusieurs facettes, voire une multitude de différentes facettes, et nous commençons à prendre du recul, à prendre du recul, nous commençons à voir un genre de forme ou quelque chose qui lie et relie chaque facette dans un ensemble. C'est précisément ce que le cours nous invite, nous encourage à faire ou va nous apprendre à faire. C'est de voir comment chaque facette ressemble à une autre facette. Même si le visage sur chaque facette est unique, la nature de la facette, le fond de la facette et le support de la facette est identique entre chaque facette. Cette leçon va nous aider à prendre cette distance et avec les exercices de méditation que nous allons faire, nous allons essayer d'encourager notre esprit à s'ouvrir à une plus grande réalité, ce qui sera très difficile à adopter, la perception de cette nouvelle réalité, simplement parce que nous ne sommes pas simplement tellement convaincus d'être un être séparé. C'est notre ressenti le plus viscéral d'être un être séparé. Or, les signes sont néanmoins bien présents d'une réalité plus grande que juste notre expérience particulière. Une autre image ou métaphore que j'aime particulièrement est l'image, la métaphore d'une main. Et certains d'entre vous ont déjà vu cette métaphore. Si j'avais, je sais pas si vous me voyez, si j'avais dessiné un petit visage sur chaque bout de doigt, vous auriez pu avoir l'impression que chaque doigt, pardon, si j'ai dessiné un visage sur le bout de chaque doigt, vous pouvez avoir l'impression que chaque doigt est un être entier, à part entière, et qui bouge, il se déplace d'une façon indépendante des autres. Un doigt pouvait même avoir l'impression qu'il pouvait insulter son voisin sans conséquence pour lui-même. Néanmoins, nous, on sait que la réalité est plus grande, mais le pauvre petit doigt, il ne le sait pas. Donc, il va peut-être, chaque fois qu'il insulte son voisin, il va ressentir une petite gêne, parce que nous savons qu'il est lié à cet autre doigt. Et c'est seulement au moment qu'il creuse un peu plus profondément, qui se demande pourquoi il ne se sent pas bien chaque fois qu'il juge son voisin, qu'il va peut-être faire baisser le voile sur sa conscience, baisser le voile sur sa conscience, et il va comprendre à la fin qu'il est lié par quelque chose de très mystérieux qui s'appelle la main, la paume, il est lié aux autres doigts. Mais il fallait qu'il voie au-delà de ce voile, de notre page blanche, qui est dans l'inconscience, qui est purement dans le domaine de l'esprit, il fallait qu'il voie au-delà d'une certaine voile pour pouvoir prendre conscience d'une réalité plus grande que juste l'apparence des êtres séparés. Donc voilà, je vous invite à utiliser ces deux métaphores si vous voulez bien jouer avec demain ou après-demain, comme vous le souhaitez. Quand vous êtes dans un endroit où vous pouvez voir, observer du monde et essayer de dépasser vos réactions automatiques de donner une réalité et une identité séparée à chaque personne. Donc faisons un petit exercice ici pour nous aider dans cette. Dans cette démarche, pensons justement à un lieu où vous voyez, vous avez l'habitude de voir du monde, comme au supermarché, en transport, dans le transport public, ou lors d'une fête, ou quand vous voyez une manifestation à la télé. Est-ce que, donc on se pose cette question, est-ce que nous voyons vraiment une unité? Est-ce que nous pouvons vraiment imaginer une unité derrière ces apparences? Et on va devoir se poser cette question vraiment très très souvent. Encore, ce n'est pas simplement parce que c'est la réalité derrière les apparences, c'est parce que l'automatisme dans notre esprit nous emmène extrêmement rapidement à donner une réalité séparée chacun. Parce que nous voulons nous-mêmes garder l'intégrité de cette image particulière de ce que nous pensons être. Donc nous devons combattre un petit peu ce réflexe nous faire cet effort de voir au-delà des apparences. Donc je vous pose cette petite question. Qui peut imaginer que derrière les apparences de ces personnes, il y a un seul esprit dont nous faisons tous partie. Et je ne cherche pas une réponse, oui, je le vois, cette unité. Au contraire, en fait, je cherche des réponses plus réelles, plus vraies, plus franches en chacun. Et notre première réponse devrait être non, je ne le vois pas et je ne le sens pas non plus. On peut peut-être dire, je voudrais bien le voir, je voudrais bien y croire, mais notre première réponse devrait être, je ne le vois pas et je ne le sens pas non plus. Donc, mais je ne peux pas répondre pour vous. Si vous avez envie de répondre, ça sera avec grand plaisir. Mais en fait, j'ai une deuxième question après. La première question est, est-ce que vous pouvez soupçonner qu'il y a quelque chose en chacun qui le relie à quelque chose de plus grand que lui? Au point que cette autre chose soit plus grande que nous tous et soit notre réalité commune. Et en vous posant cette question, je vous invite à ressentir la nature du non qui apparaît dans votre esprit. C'est-à-dire, quand je dis, est-ce que vous voyez cette unité et vous avez peut-être envie de dire, ben, non, je ne la vois pas. Essayez de ressentir la nature de ce non. Est-ce que c'est un non franc, ou est-ce que c'est un non dubitatif, ou est-ce que c'est un non je voudrais bien, mais quelle est la nature de ce non? Est-ce que c'est un non fort qui dit je ne le vois pas et je ne veux pas le voir non plus, ou je ne le vois pas et cela m'effraie de l'imaginer? Soyez juste attentif à cela. Et si vous avez envie de noter votre réaction, la nature de vos noms à cet exercice. Vous pouvez la mettre dans le feed de chat. C'est-à-dire, un, c'est non, assez facile. J'entends un non, je ne le vois pas, mais ce n'est pas un non compliqué. C'est un non qui voudrait bien essayer, voudrait bien imaginer. Ou est-ce que, en toute honnêteté, votre nom apparaît plus sur la forme de quelque chose un petit peu plus soutenu. Style non, je n'aime pas l'idée, je n'ai pas envie de le voir et ça m'a fait peur. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour les autres. Ici, c'est vraiment pour vous-même. Vous n'avez pas besoin donc de mettre dans le feed de chat, mais je voudrais bien que vous imaginez un chiffre qui apparaît dans votre esprit pour symboliser pour vous votre niveau, votre rapport à cette idée de l'unité derrière les apparences. Cela va vous aider grandement à faire du progrès avec votre résistance, si au moins vous êtes honnête par rapport à son intensité et sa nature. Donc, Je n'ai pas de réponse qui entre ici, mais ce n'est pas grave. Je vois une réponse. Non, je ne vois pas ce lien. Je vois l'interdépendance, mais l'unité en l'esprit, j'aimerais y croire, malgré les apparences, cela me reconforterait. Très bien, je vois une 4. Je vois un non, j'aimerais le voir, mais une fois au bord de la mer, un voile s'est levé et j'ai revu avec mes yeux d'enfant où je me sentais relié à tout le reste. Ah, c'est très beau. Merci, Véronique. Donc, je ne sais pas si vous avez envie peut-être de garder vos réponses pour vous ce soir. Donc, il n'y a pas de souci. Je vous invite juste à ouvrir votre esprit à ce qui pourrait être la réponse qui se profile dans votre esprit quand vous songez à cette idée. Encore, on ne veut pas juste accepter les paroles de Jésus, de notre guide dans ce livre, sans voir nos réactions. On veut être très attentif à nos réactions. C'est trop facile de juste lui donner raison sans voir qu'en fait, une vraie résistance à l'intérieur. Nous devrions connaître une vraie résistance. Nous devrions le voir. Oui. Donc, je lis ici, c'est un non dubitatif. Je vois surtout l'épaisseur du voile qui nous sépare. Un autre qui dit, ne voyez pas votre visage, l'autre ne vous pas la sienne, donc le visage que vous voyez, c'est vous-même. Oui, c'est tout à fait ça, Guy. Et tant que c'est vécu comme quelque chose de réel en chacun, ça sera parfait. Peur de côtoyer des mauvaises personnes en grande souffrance ou en grande surface, souffrance. Oui, je peux vous rassurer tout de suite que l'unité que nous partageons n'est pas l'unité de l'ego. Donc, ce n'est pas l'unité avec la souffrance de l'autre ou avec la méchanceté de l'autre. C'est nous sommes un, ça c'est un sujet, je ne sais plus où ce soir, si c'est cette leçon ou la leçon d'après. Nous sommes un dans l'esprit faux et un dans l'esprit juste, mais nous ne sommes pas unis avec l'ego de l'autre personne. Oui. Donc, si cela vous aide à savoir qu'il n'y a aucun problème à nous voir partageant le même esprit, et de toute façon, notre seule réalité est le Christ en nous, le Christ en l'autre et le Christ en nous. Nous partageons le même esprit faux et nous partageons le même esprit juste. Donc, faisons ici tout de suite une méditation qui va nous aider à juste ancrer quelques idées ici. J'ai une dernière réaction ici. C'est un non dubitatif car je me sens très frère vis-à-vis de la condition humaine et de l'universel. Je peux réellement me sentir lié, mais je ne peux pas me tromper et ce n'est pas continu. Mais je peux me tromper, pardon. Mais je peux me tromper et ce n'est pas continu. Merci. Très bien. Fermons nos yeux et faisons une petite méditation. C'est juste un petit instant de recueillement pour essayer d'ancrer ces idées dans notre esprit. Donc, en fermant nos yeux, nous prenons conscience de Dieu en nous, de silence, de calme et de paix. Et dans cet endroit de silence, de calme et de paix, je vous invite à évoquer une image d'une foule, d'un groupe de personnes, que ce soit lors d'une réunion, que ce soit au travail, dans la rue, dans le transport en public, dans une fête. Et nous observons les nombreuses personnes devant nous. Et automatiquement, nous attribuons à chaque visage un genre d'identité séparée. En imaginant le caractère de chacun. Cela est tout à fait automatique et normal. Et pourtant, derrière ces apparences, il y a une unité d'esprit. Et si nous donnons une grande importance à chaque visage différent, nous ne pourrons pas voir cette unité. Essayons d'imaginer maintenant que derrière l'apparence de ces personnes différentes, il y a un seul esprit. Un seul esprit avec exactement les mêmes pensées de fond, avec seulement une petite forme différente. Ce sont des pensées d'amour ou de peur, de paix ou de guerre, d'unité ou de particularité. Chacun essaie d'oublier sa vraie nature en renforçant sa différence et sa particularité. Mais nous sommes en train d'apprendre que derrière ces différences et ces aspects particuliers de chacun, il y a le même esprit du Christ. Regardons maintenant dans le visage de chaque personne dans ce groupe, dans cette foule, et essayons d'imaginer la présence du Christ dans l'esprit de chacun. Il n'y a pas de mal à nous tromper. Mais la réalité reste toujours présente derrière nos erreurs. Le seul aspect réel dans l'esprit de chacun est le Christ en lui. Essayons encore quelques instants à voir au-delà des différences de chacun pour imaginer un seul esprit qui nous unit. Et maintenant, nous allons terminer cette petite méditation. Donc, je vous invite à porter votre attention à nouveau vers l'extérieur. Et à remettre un petit peu de mouvement dans vos mains ou dans vos pieds. Et à ouvrir vos yeux quand vous vous sentez prêt. C'est très bien. Donc cette leçon est une opportunité pour commencer à prendre responsabilité doucement de la puissance de notre esprit à nous souvenir que nous sommes intimement unis avec chacun et aussi à nous pardonner pour nos pensées qui ne sont pas toujours entièrement aimantes. Et je crois que ça suffit pour une première pratique de cette leçon. Maintenant, pour les étudiants avancés, cette leçon est un appel à la motivation. Cette leçon peut nous inviter à prendre, à monter le bar un petit peu plus haut. Nos pensées et nos choix affectent d'autres personnes. Cela devrait nous impressionner. Et pour vous mettre dans le bain, vous les étudiants avancés, j'ai une question pour vous. Quelle était la nature de vos pensées aujourd'hui? Un petit quiz ou un petit exercice vite fait. Quelle était la nature de vos pensées aujourd'hui? Parce que ce sont les pensées que vous avez partagées avec les autres, sans le savoir. Parce que peut-être aujourd'hui, vous aviez pensé que vous aviez un esprit privé, séparé. Maintenant, vous êtes en train d'apprendre que non, en fait, toute la journée, vous aviez un esprit partagé, un esprit uni avec les autres. Les autres étaient capables de ressentir les effets de ce que vous voyez. Et maintenant, la question est comment est-ce que vous avez regardé le monde aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu le monde par les yeux de l'amour, de la paix et du pardon? Ou est-ce que vous avez regardé, contemplé le monde par les yeux qui voyaient plutôt le conflit, l'injustice, la pénurie, le manque? Et quelque part, vous avez donné raison à ces conflits, à ces injustices, à ces manques. Est-ce que vous avez vu le monde par les yeux de la peur? Donc, quelle était la façon dont vous avez regardé le monde aujourd'hui? Et qu'est-ce que, donc, je vois une réponse qui est entrée de manière énervée et anxieuse. Très bien, souvenez-vous, nous ne sommes pas ici dans le pays des bisounours. L'idée n'est pas de passer une couche de biafine spirituelle sur l'ego dans notre esprit. Nous voulons simplement observer et faire connaissance profonde de notre ego. Plus nous arrivons à voir notre ego à l'œuvre, en marche, la façon dont il fonctionne, plus nous allons pouvoir dire stop, j'ai plus envie de faire cela. Donc soyons très honnêtes en posant-nous cette question. Quelle est la façon dont nous avons vu le monde aujourd'hui, puisqu'il paraît que selon cette leçon, nous ne sommes pas seuls à avoir éprouvé les effets de la façon dont nous avons vu le monde. Je n'ai qu'une pensée qui est entrée. Donc, vous êtes peut-être un peu fatigué. Vous avez plutôt envie de réfléchir à ces idées pour vous-même. Une autre personne, toujours un stress de fond. Un autre, ayant rencontré un jeune couple faisant le tour d'Europe à vélo, cela m'a ouvert l'esprit. Très bien. Donc, posez-vous cette question. Encore, cela ne devrait pas être, ne devrait pas provoquer en nous de la culpabilité, mais juste de la conscience. Nous voulons être effectivement plus attentifs à ce que nous permettons dans notre esprit et aux choix que nous faisons. Donc, une autre personne qui dit, les yeux de la séparation à 95% de jugement, mais étaient semi-pensés. Mais est-ce. Pardon, Loïc. J'arrive pas à le lire. Les yeux de la séparation à 95% de jugement, je crois. Une autre personne, admiratif de la nature, la mer, puis stress des situations à résoudre, puis partage amical. Très bien. Une autre personne, peur, joie. Très bien. Encore une autre, dans ce cas, je préfère éviter d'avoir ces pensées si tristes. Ah, oui, sachant que c'est nos pensées de tristesse, quelque part, en influence, ou l'effet de ces pensées sont éprouvées par d'autres personnes. Oui, on aimerait peut-être avoir des pensées plus joyeuses. Et une dernière personne qui dit, je vois que mon esprit traverse beaucoup de choses, je regarde avec plus d'acuité et du coup, c'est assez édifiant. Très bien, merci. Encore une dernière, pardon. Esprit guerrier aujourd'hui pour défendre et protéger ma tante âgée d'une personne toxique. Très bien. Peut-être nous pouvons le faire. Protéger, défendre cette personne ou protéger, défendre nos intérêts ou les intérêts de notre personne, mais d'une façon qui ne condamne pas, qui comprend, c'est la nature de ce monde. C'est la nature des autres de vouloir profiter des autres, mais nous ne sommes pas obligés de les condamner ou les leur séparer de l'amour de Dieu. Donc, très bien. Et je vous laisse avec cette invitation, vous les avancez, de faire un meilleur choix. Voilà. Nous lisons dans nos cours que enseigner, c'est démontrer. Nous avons l'impression enseigner, c'est quelque chose comme ce que je suis en train de faire, avec une procédure un peu didactique, une méthode pédagogique. Enseigner dans nos cours, c'est démontrer, c'est vivre. La façon dont nous vivons est toujours en train de démontrer, de montrer aux autres personnes, d'enseigner aux autres personnes ce qui est dans le fond de notre esprit, ce que nous croyons, ce qui est vrai et réel pour nous. Je peux vous lire de l'introduction du manuel pour les enseignants. Enseigner, c'est démontrer. Il y a seulement deux systèmes de pensée et tu démontres que tu crois que l'un ou l'autre est vrai tout le temps. Les autres apprennent de ta démonstration et toi aussi. La question n'est pas de savoir si tu vas enseigner, car là, il n'y a aucun choix. Nous enseignons, nous démontrons, nous montrons aux autres à chaque instant ce qui est vrai pour nous. Alors, qu'est-ce que nous voulons montrer maintenant? Que l'amour soit vrai ou que la peur soit vraie? Que la guerre soit vraie ou que la paix soit vraie? Donc, je vous laisse avec cette interrogation et avec cet exercice pour les étudiants avancés. Merci beaucoup. Avançons. Et voici la leçon 19. Je ne suis pas seul à éprouver les effets de mes pensées. Dans le premier paragraphe, nous lisons « La pensée et ses résultats sont simultanés ». Juste une petite parenthèse sur cela. Kenneth Wapnick introduit l'idée que la façon de mieux comprendre cela est avec la métaphore d'un projecteur. Avec un projecteur de film, ce que nous voyons à l'écran est le copie conforme et l'image exacte de ce qui est dans le film. Et donc, nous voulons interroger sur ce qui est sur le film, nous regardons l'écran, nous nous interrogeons sur ce qui va se projeter sur l'écran, nous regardons le film. C'est une façon d'expliquer ce premier paragraphe qui est un peu énigmatique sinon. Mais ça, c'est juste une petite parenthèse. Le vrai sujet dans cette leçon est dans le deuxième paragraphe, quand Jésus dit qu'il n'y a pas de pensée privée. Maintenant, j'ai vu dans le livre de Kenneth, Voyage dans le livre d'exercice du cours, qu'il dit, dans l'illusion, il y a bien des pensées privées. Donc, je vous entends faire un grand ouf. Heureusement, il y a des pensées privées. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à faire ouf? C'est parce qu'on se rend compte qu'il y a bien des pensées qu'on n'aimerait pas dont les autres soient au courant. Les pensées qu'on vient d'avoir et on se dit, oh ben tiens, heureusement, je ne l'ai pas dit. Je suis content qu'il ne sait pas ce qui se passe dans mon esprit. Donc, quelque part, s'il y a un effet de ouf, il y a des pensées privées que les autres ne sont pas au courant, c'est parce que nous ressentons déjà un petit peu de culpabilité ou de mal-être pour ce qui est dans notre esprit. Si nous avons des pensées dont nous ne sommes pas fiers, nous pouvons être sûrs que cela va augmenter notre sentiment de culpabilité. Donc, nous voulons faire quelque chose, même si les autres ne sont pas, strictement parlant, conscient de ce que nous pensons, cela va ajouter à notre culpabilité. Mais, malgré cela, les autres sont conscients, à un niveau inconscient, si vous voulez, ressentent bien le fond de notre pensée, puisqu'il n'y a que deux fonds de pensée. comme nous avons vu dans les dernières leçons, il n'y a que deux pensées, il n'y a que deux systèmes de pensées, il n'y a que deux émotions, amour et peur. Et les autres sont capables de sentir, de ressentir lequel est dans notre esprit au moment où nous communiquons, au moment où nous sommes ensemble. Et c'est pour cette raison-là que c'est particulièrement important de veiller au contenu de notre esprit. J'ai traduit cette phrase du livre de Kenneth. Nous faisons tous partie d'un même esprit et à ce niveau, la peur et la culpabilité d'autrui sont renforcées par nos pensées de séparation, bien sûr, par nos pensées d'ego, bien sûr. Sinon, leur sentiment de paix sera renforcé par notre pensée de paix. Mais je pense que ça devrait vraiment nous interroger et pour nous donner un petit instant de réflexion sur cela, j'aimerais bien vous offrir cette question. Quel est votre niveau d'inconfort avec cette idée que les autres ressentent et captent bien le fond de votre pensée? On peut dire qu'un 1 symbolise, si vous voulez faire une petite, mettre une petite note dans le fil de chat ou simplement réfléchir pour vous-même, surtout si vous regardez ceci en replay. Notez votre réaction, notez votre niveau d'inconfort. Si c'est grand inconfort, ça sera 10. Si c'est un petit inconfort, ça sera peut-être un 0 ou un 1. Mais soyez conscient de notre niveau d'inconfort à l'idée que les autres soient conscients à un certain niveau du fond de votre esprit, que ça soit aimant ou non aimant, que ça soit une pensée d'inclusion et de fraternité ou une pensée de jugement et d'exclusion, que ça soit une pensée de gentillesse et de douceur ou une pensée de peur et de défense. Les autres peuvent ressentir, ils sont affectés par le fond de notre pensée, tout comme nous sommes affectés ou nous pouvons ressentir le fond de la pensée de notre personne. Donc j'ai une personne qui dit une 4, je ressens de la gêne, une autre qui dit une 4, 9 et demi, je suis très gêné car je suis dévoilé et je n'ai plus de jardin secret. Très bien, c'est très très juste. Quelque part dans un premier temps, cette idée devrait nous gêner. Après, nous commençons à devenir peut-être plus familiers avec l'idée et encore une autre, le niveau de mon inconfort est proportionnel à l'intensité des pensées en cause, mais en général, un 5. Si les autres savaient vraiment le fond de votre pensée, quand vous regardez la télé, quand vous regardez d'autres personnes dans la rue que vous appréciez moyennement, qui vous font peur, quand vous pensez à toutes les injustices dans le monde, quand vous réfléchissez à ce qui est en train de se passer dans d'autres parties du monde. J'ai une personne qui dit plutôt mal à l'aise, cela pourrait induire de la honte de penser ce que je pense. Donc, encore, je vous mets en garde contre les pensées de honte et de culpabilité. C'est certainement pas l'idée de ressentir de la honte et de la culpabilité. Si c'est effectivement votre réaction, essayez de savoir qu'il n'y a rien de plus normal d'avoir des pensées d'ego dans un monde fabriqué par l'ego. Il est impossible de ne pas en avoir. Ce que nous voulons éviter, c'est de ne pas être au courant, c'est d'être inconscient de ses pensées. Sinon, nous nous laissons aller et il n'y a aucun chemin spirituel, il n'y a aucun chemin de conscience, il n'y a aucune amélioration, il n'y a aucun progrès vers la paix, vers la paix intérieure, vers la purification de notre esprit, pour utiliser un terme un petit peu plus fort symboliquement, pardon. Une autre personne, ce n'est pas très confort. C'est pas très confort, désolé, Loïc. 5. Surtout à la vue de mes pensées d'attaque. D'accord, très bien. Ok. La conclusion ici, c'est que il est important de savoir ce que c'est la nature de nos pensées. C'est aussi important de ne pas avoir honte, ne pas avoir honte d'avoir un ego, de ne pas avoir honte d'avoir des pulsions, même des pulsions meurtrières, les pulsions d'attaque, les pulsions de défense, de connaître la peur. C'est normal dans un monde qui est fabriqué à partir d'une pensée de peur et de séparation et de violence. Donc, l'idée est simplement de commencer à devenir conscient de la nature de nos pensées. Ce ne sont pas que nos pensées négatives qui sont partagées. D'accord? Nous pouvons aussi nous réfugier dans l'idée que nos plus belles pensées sont aussi partagées. Et maintenant, j'ai envie de vous inviter à réfléchir. Est-ce que vous n'avez jamais eu rencontré quelqu'un qui vous a laissé immédiatement en paix ou qui vous a rendu immédiatement joyeux par le simple fait juste de regarder dans leur visage, ouais, et de voir leur sourire? Est-ce que cela vous est arrivé? J'espère que vous avez eu le bonheur d'avoir fait des rencontres de cette nature. Cela m'est arrivé à plusieurs reprises. Et parfois même les gens, quand vous visitez un pays étranger et vous voyez quelqu'un dont vous ne partagez pas la langue ni la culture, mais il y a un moment de complicité entre vous et vous vous souriez comme si vous êtes des frères séparés par toute la forme de ce monde. Et pourtant, quelque chose vous lie et vous êtes heureux juste d'être dans la compagnie de l'autre personne. Là, il y a un instant d'union sans barrière. Oui. Et plein de personnes, bien sûr, ont raconté une expérience semblable en regardant dans le visage de Kenneth Wapnick. Catherine dit, oui, souvent, elle a eu ce genre d'expérience. Et donc, ce que je voudrais vous rappeler ici, c'est que nous sommes. Et c'est un enseignement essentiel de Kenneth Wapnick. Nous sommes un dans l'esprit fou. Nous partageons tous l'esprit fou. Donc, nous partageons forcément tous la même violence dans notre esprit, le même besoin parfois de nous réfugier dans le jugement et l'injustice. Nous allons le faire. Mais c'est le même qu'en chacun. Donc, le fait de nous voir pareils dans l'esprit faux devrait nous aider à pardonner les autres pour leur esprit faux, à voir que nous sommes pareils, oui, même dans l'esprit faux. Et pour Kenneth, c'est absolument essentiel sur ce chemin de savoir que nous sommes unis dans l'esprit faux. Il n'y a qu'un seul ego, et nous le sommes collectivement, avec 8 milliards de différents aspects, différentes expressions de ce même esprit d'ego. Ce n'est pas mon ego. J'exprime notre ego collectif à ma façon. Vous exprimez notre ego collectif à votre façon. Vous n'avez pas un ego séparé. Je n'ai pas un ego séparé. C'est attractif et tentant et séduisant de parler de cette façon, ce que ça semble donner une particularité à notre esprit. Mon ego est comme cela. Non, nous n'avons pas un ego chacun. Kenneth disait, c'est la voie pour reconnaître que nous sommes aussi unis dans le Christ, unis dans l'esprit juste, unis dans le grand soi. Ces deux leçons nous apprennent que nous sommes unis dans l'esprit faux et unis dans l'esprit juste du Christ. Et donc, pour finir cette première partie, nous pouvons faire une petite méditation, mais je vais peut-être essayer de rattraper. Il y a quelques réponses qui sont entrées maintenant. Quelques beaux sourires en mémoire. Oui, même assez souvent, ce genre de rencontre, je me souviens d'un visage d'un jeune homme inconnu dans un parc. Il n'avait aucune séparation dans ses yeux. Seul l'amour se manifestait. Magnifique. Une autre personne Oui, à plusieurs reprises, et notamment lorsque je ris avec mon fils, il m'est également arrivé de partager de longues heures d'échange avec un étranger dont je ne parlais pas la langue. Je me sentais relié. Magnifique. Merci. Finissons cette première partie de la leçon 19 avec une méditation, si vous voulez bien. Juste un court instant de repli et de recueillement dans le silence de notre esprit. Si vous voulez bien fermer les yeux, ou juste baisser votre regard et vous intérioriser quelques instants. Pensons à ce que nous venons d'apprendre, que nous sommes tous reliés. Oui, dans l'esprit faux. Mais encore plus important, nous sommes tous reliés dans l'esprit juste, l'esprit du Christ. Et nous pouvons communiquer à partir de l'esprit du Christ en nous, à l'esprit du Christ en les autres. Simplement avec un changement d'esprit. Avec un simple changement d'esprit. Comme notre esprit est pleinement dans l'amour et l'unité, quand nous n'avons plus peur des autres, quand nous ne cherchons à rien prouver ou à rien prendre pour la satisfaction de nos besoins, quand nous oublions de juger les autres, quand nous ressentons une fraternité et une intimité profonde avec chacun et avec chaque chose, quand nous ne doutons pas un instant de la profonde bonté en nous et en eux, alors les autres verront dans nos yeux quelque chose qui leur rappellera la joie, le réconfort, la douceur et la tendresse. Il se souviendra du Christ en eux. Très bien. Je vous invite à revenir de cette courte méditation pour finir juste le temps de finir la première partie de cette leçon. C'est la fin de cette partie pour ceux qui pratiquent la leçon pour la première fois. Merci beaucoup, je vous souhaite très bonne pratique de la leçon 19. Et maintenant, pour les étudiants avancés qui ont déjà fait cette leçon une première fois, ce que nous voulons retenir de cette leçon, c'est cette réaction qui peut être vive dont j'ai parlé tout à l'heure, cette résistance. Qui peut nous déranger, cette façon de ne pas aimer. L'idée que notre esprit soit partagé avec d'autres personnes. Nous pouvons même avoir une réaction qui dit non, mais je veux être seul dans mes pensées. Je veux être seul dans les effets de mes pensées. Je veux être le seul à être affecté par mes pensées. Il y a peut-être même une pensée qui peut dire, je suis le seul à ressentir les effets de ma pensée. Je refuse de croire que cela peut avoir une portée au-delà de moi-même. On peut même s'entendre dire des fois, en parlant à une autre personne de sa souffrance, tu ne peux pas savoir ce que je ressens, tu ne peux pas savoir comment je souffre, tu ne connais pas cette douleur. Nous avons entendu des gens dire des choses pareilles quand nous avons essayé de les aider, on a été tenté de dire, oui, je sais ce que tu ressens. Et l'autre crie, nous dit avec force, non, tu ne peux pas savoir. Ouais. Ce que nous essayons de dire par cela, sous-entendu, c'est que je suis séparé, je suis seul et je suis isolé. Donc, des étudiants avancés, nous devrions être plus attentifs ou plus conscients de ce que nous essayons de faire et de dire quand nous insistons sur notre esprit privé, sur la nature privée de nos pensées. Nous essayons d'y insister pour maintenir la séparation, d'être cet être séparé. Et c'est tellement facile de souffrir, comme Kenneth dit dans son livre Voyage, dans le livre d'exercice d'un grand miracle, il dit, chaque fois que nous consentons de souffrir, c'est une façon de dire, je suis seul, je suis séparé, je suis indépendant de chacun, et ce monde m'affecte. Donc, il nous invite juste d'être conscients des moments quand nous sommes souffrants et nous souffrons d'une certaine façon, d'être complaisants avec notre souffrance, de ne pas vouloir que notre souffrance soit atténuée, d'en faire une grande histoire en quelque sorte. Toutes les pensées d'être victime sont une façon de dire, je ne crois pas dans cette leçon. Oui. Je suis seul dans mon esprit privé et je souffre dans mon esprit privé. Je pense que c'était des pensées très, très fortes que j'ai lues dans le livre de Kenneth. Et cela m'a rappelé la leçon 100 que j'aime beaucoup parce que ça contient des idées très, très puissantes. Parce que la leçon 100 est une invitation à être heureux, à être joyeux, pour pouvoir montrer aux autres que Dieu nous aime. Parce que chaque fois que nous consentons de souffrir, c'est une façon de dire, je suis ce que je suis à cause de Dieu. Dieu m'a mis ici. Eh bien voilà, c'est sa faute. Dieu n'est pas un Dieu d'amour. Et cette leçon nous demande d'inverser toute cette pensée et dire, Dieu veut ton bonheur. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu montres aux autres qu'il les aime. Et donc j'ai pensé finir cette leçon, cette séance, avec une lecture de quelques passages de cette leçon que je trouve magnifique. C'est une invitation à la joie et au bonheur pour remplacer nos pensées de tristesse, sachant que les autres apprennent par le fond de notre pensée. Écoutez ceci, ta joie doit être complète pour que son plan soit compris de ceux à qui il t'envoie. Ils verront leur fonction dans ton visage rayonnant et ils entendront Dieu les appeler dans ton rire heureux. Puisque nous ne sommes pas seuls à éprouver les effets de nos pensées, les effets de ce que nous voyons, nous pouvons choisir de penser à la joie et au bonheur et en confiance. Que c'est une façon de démontrer et apprendre aux autres la vraie nature de cette unité que nous appelons Dieu, ce Dieu qui nous aime de tout son cœur. Et voilà, si vous voulez bien écouter ceci, c'est la lecture de ces passages comme une méditation et la fin qui nous emmènera à la fin de la séance. Dieu te demande d'être heureux afin que le monde puisse voir combien il aime son Fils et veut qu'aucun chagrin ne surgisse pour réduire sa joie, qu'aucune peur ne l'accable pour troubler sa paix. Tu es le messager de Dieu aujourd'hui. Tu apportes son bonheur à tous ceux qui te regardent, sa paix à chacun de ceux qui te regardent et voient son message sur ton visage heureux. La volonté de Dieu pour toi est le parfait bonheur, parce qu'il n'y a pas de péché, la souffrance est sans cause, la joie est juste et la douleur n'est que le signe que tu t'es mal compris toi-même. Dis, La volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. Il n'y a pas de péché. Il n'a pas de conséquences. C'est ainsi que tu devrais commencer chaque jour, puis essayer à nouveau de trouver la joie que ces pensées introduiront dans ton esprit. La volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. Eh bien, si vous souhaitez rester dans cette méditation, vous pouvez couper le son sur votre appareil. Si vous avez envie de participer à la deuxième partie de cette séance, je vous invite à ouvrir les yeux doucement quand vous le souhaitez et à revenir à notre séance. Merci beaucoup pour votre participation ce soir. Je serai heureux de vous, si vous devez nous quitter, je serai heureux de vous retrouver la semaine prochaine si vous le souhaitez.